on the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
Bonjour, bonjour. Au micro, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers décembre 1895. Enfin, ça fêtait plutôt dans l'année, mais bon, on va pas chipoter, quelque part vers décembre 1895. Ce jour de 24 notes seconde, et nous allons consacrer notre émission à un réalisateur américain, le dénommé John McDonald Badham, alors plus connu sous le nom de John Badham, ce sera son nom de réalisateur, qui était né en Angleterre, le fils d'un général, Henry Lee Badham Jr., et d'une actrice, Marie Yola Badham. On va supposer, même si ma petite fille ne le dit pas, que son papa était en Angleterre pour des raisons circonstancielles, puisque deux ans plus tard, eh bien, toute la famille redéménagera aux États-Unis où le petit John fera l'essentiel de ses études. Ensuite, il commencera à travailler à la télévision, notamment pour les studios Universal, quelque part vers les années 70. Vous ai-je précisé qu'il était né le 25 août 1939 ? Non, je n'en suis pas sûr. Donc, pendant la trentaine, eh bien, il commencera à se connaître. Et en 1976, il tournera son premier long métrage. J'avoue que je ne le connais pas, donc je ne peux que vous donner son titre, qui est quand même assez inspiratif, si je puis dire. The Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, il peut toujours appeler le standard de la radio. Et puis, il y a beaucoup de réalisateurs qui font un certain nombre de films avant de connaître un très très grand succès, et puis qui rament un peu. Mais John Badham, lui, dès 1977, eh bien, il va réaliser ça.
Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. We'll be right back.
Quand on pense que ça va bientôt fêter son demi-siècle, on reste rêveur et abasourdi devant l'immanence de la chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas reconnu les Bee Gees. Peut-être y en a-t-il. Donc, bienvenue dans le club et le monde merveilleux du disco, puisque c'était How Deep Is Your Love, extrait de la bande originale de Saturday Night Fever, La Fièvre du Samedi Soir, un film donc réalisé par John Badham en 1977. Il faut dire que l'homme avait bénéficié d'un concours de circonstances, puisque le premier réalisateur pressenti, John J. Avildsen, avait été éjecté. Il faut quand même, John J. Avildsen, c'était le réalisateur de Rocky, tourné l'année précédente avec Sylvester Stallone. Est-il besoin de le préciser? On ne sait pas pourquoi, ma petite fiche ne le dit pas. Il a été remplacé sur le tournage par John Badham, mais en voilà un, John Badham, qui, était béni des dieux, puisqu'en 1977, il signa un film iconique, le film des années disco. Est-il besoin de préciser que le rôle principal du film, Tony Manero, était tenu par John Travolta, évidemment, John Travolta, qui était magique avec son pantalon blanc sur les pistes disco, avec les dalles qui bougeaient. C'était fascinant, une piste disco d'une boîte de nuit qui s'appelait, je vous le donne en mille, 2001 Odyssée, évidemment un hommage à 2001 Odyssée de l'espace. Il est assez étonnant, quand on regarde la fiche du film, de voir que si John Travolta est devenu la vedette que l'on sait, eh bien par contre tout le monde a oublié Karen Lynn Gornick, qui jouait sa chérie, Stéphanie Mangano, et je ne parle même pas des autres, John Travolta, qui juste après le tournage de La Fièvre du Samedi Soir se vit proposer le rôle principal de Grease. Il y en a qui devraient réviser un peu avec Olivia Newton-John. Mais il faut tout vous dire, en fait, dans cette émission de 24 notes secondes. Nous sommes dans les fondamentaux de la culture des années 80, mesdames et messieurs, il faut quand même le dire. Et le disque des Bee Gees, donc le disque de la bande originale de Saturday Night Fever, il se vendit, et se vend sans doute toujours, à près de 40 millions d'exemplaires. Je vous laisse imaginer les droits touchés par les Bee Gees, mais enfin, ils l'ont bien mérité. Et ce disque, Cocorico, mesdames et messieurs, vous savez où il a été enregistré? Était enregistré au château d'Hérouville, quelque part en France. C'est quand même vous dire, quelque part, le succès de La Fièvre du Samedi Soir doit aux Français. On en était sûr, forcément. Bref, un début de carrière en fanfare pour John Badham, avec un film qui rencontre un énorme succès. Il y a eu une suite. Je la mentionne vraiment par miséricorde. Il n'y avait pas de John Travolta dans la suite, d'ailleurs. Staying Alive, tourné en 1983. Par Sylvester Stallone, déjà cité. Alors, Sylvester, déjà comme acteur, il n'a pas toujours été très très doué, mais alors comme réalisateur, passons. On va s'enchaîner plutôt sur le film que John Badham tourna après celui-là. Alors, on aurait pu s'attendre à La Fièvre du Samedi Soir 2, mais bon, on voit que c'est Rocky qui s'y est collé. Et en fait, John Badham prendra tout le monde à contre-pied, puisqu'il choisira, en 1979, donc 2 ans plus tard, de tourner une nouvelle version d'un mythe du cinéma d'horreur et d'épouvante qui a déjà été 1000 fois utilisé au cinéma, Dracula. Dracula, qui dans son film était interprété par le charismatique Fran Langella, avec à ses côtés Laurence Olivier, qui jouait le rôle du chasseur de vampires Van Helsing, Donald Pleasance et la délicieuse Kate Nelligan, qui évidemment se faisait charmer par Dracula. Il faut dire que le film était l'adaptation d'une pièce de théâtre et non pas du roman originel de Bram Stoker, et que plutôt que jouer sur le côté horrifique, sanglant, gore, etc. de la chose, assez habilement, John Badham avait joué déjà sur le côté reconstitution de l'Angleterre du début du XXe siècle, relativement soigneuse et très esthétisante, et puis surtout sur le charisme purement sexuel, il faut bien le dire, du comte Dracula séduisant ses victimes. Et Frank Langella, qui était un très bel acteur, jouait justement de cette dimension-là et séduisait évidemment Kate Nelligan et quelques autres par le biais, de ce charisme vampirique à tous les sens du terme. Aussi étonnant que cela paraît, c'est la musique de ce film, elle était signée de John Williams, et oui, qui à l'époque était beaucoup plus éclectique, il a fini par le devenir. On en écoute un extrait, Dracula de John Badham dans 24 notes secondes. l'aurez peut-être deviné, mais cette musique gothique de John Williams accompagnait la mort du vampire, puisqu'évidemment, il mourait, je suis désolé de divulgâcher la chose, mais il mourait à la fin du film de manière fort classique, c'est-à-dire confronté au soleil qui, on le sait, ne réussit pas plus aux vampires qu'aux touristes sur les plages de la Côte d'Azur. Un extrait donc de la bande originale de Dracula, un film de John Madame, un film, ma foi, plutôt bienvenu, mais alors complètement un contre-pied de La Fièvre du Samedi Soir qu'il avait tourné en 1977, donc 2 ans auparavant, et qu'il avait rendu sinon mondialement célèbre. Je ne suis pas sûr que le nom du réalisateur soit plus vraiment connu, on se souvient plutôt de Travolta, mais en tout cas qu'il avait permis de choisir un peu ses scénarios. Et dans les années qui suivirent, John Madame continua à surprendre son monde. On ne va pas écouter des extraits de toutes ses bandes originales, mais en 1981, on vit Richard Dreyfuss dans C'est ma vie après tout, What Life Is It Anyway, qui, contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, était une évocation tendre et ironique, mais un peu méchante, de l'euthanasie, tout simplement. Richard Dreyfuss jouait un malade qui souhaitait mourir, et le film était une variation assez bienvenue sur un sujet fort douloureux, dans un genre complètement différent, je vous l'ai dit. On verra en 1983 Tonnerre de feu, Blue Thunder, avec un hélicoptère indestructible, invisible ou autre, donc vraiment un film d'action tout à fait sympathique, mais là encore à mille lieues et de La Fièvre du Samedi Soir et de C'est ma vie après tout. En 83, on verra War Games, qui est une sorte de, je dirais, de matrice de tous les films de hackers qui ont suivi. On voyait un jeune garçon pirater, je pense, dans mon souvenir, le système informatique d'une armée des États-Unis. Il y en a tellement que je ne saurais vous dire à laquelle. Ma foi, c'était plutôt bienvenu. Et je vous retrouverai, promis, après prochain extrait, le nom de l'acteur principal de War Games, qui à l'époque était tout jeune, mais qui a fait ensuite une belle carrière. On va plutôt écouter un extrait, là, un peu décalé, d'un film, je dirais, peu connu de John Madame. Ça s'appelle American Friars en anglais. Ça s'appelle Le Prix de l'Exploit en français. Dans le rôle principal, pour les autres, on ne les connaît pas, il y avait Kevin Costner. Tout simplement, c'est un film qui est consacré au vélo, au cyclisme et aux courses de vélo. Alors comme ça, ça paraît un thème populaire, mais c'est un thème populaire de ce côté-ci de l'Atlantique. Par contre, le vélo aux États-Unis, c'est à peu près aussi connu que le football, en tout cas le football à la version européenne. C'est-à-dire que là-bas, ce ne sont pas des sports extrêmement populaires. Donc du coup, j'avoue que je n'ai pas vu le film. En français, il s'appelle Le Prix de l'Exploit. Je n'ai pas vu le film, mais en tout cas, il se passe quelque part pendant une course cycliste au Colorado intitulée L'Enfer de l'Ouest. On écoute un extrait de la bande originale de ce film. Alors cette bande originale, là encore, j'en ignore tout, en tout cas de ses compositeurs. Greg Mathison et Lee Ritenour dans 24 notes secondes. We'll be right back. Un extrait de la bande originale d'American Flyers, le prix de l'exploit en français, un film de John Badham, tourné en 1985. Je vérifie la date parce que c'est vraiment, je dirais, du pseudo-disco, il faut bien le reconnaître. En tout cas, ce que le disco, le vrai, le seul des Bee Gees et de la FIA du samedi soir avait pu générer. Ensuite, il y a eu beaucoup d'imitations, ma foi. Il faut bien écouter des bandes originales d'un réalisateur des plus éclectiques, puisque après American Flyers, on vit ou pas. En 1986, Short Circuit, l'histoire d'un petit robot qui devenait intelligent parce qu'on lui versait du champagne dessus, si je me souviens bien. C'était anodin, mais bienvenu. Et puis, je vous ai retrouvé le nom de l'acteur principal de War Games qui pénétrait les codes nucléaires de l'armée américaine et déclenchait quasiment la guerre atomique. Eh bien, c'était ce cher Matthew Broderick qui fit ensuite une belle carrière. Les fans se souviendront peut-être qu'il fut le héros de The Ferris Bueller Day Off de John Hughes. Là, je reconnais, c'est pour les initiés, mais il y en a aussi, j'imagine, derrière leur poste de 24 notes secondes. Ensuite, John Badham connut à nouveau un très gros succès avec Stakeout, en français Protection Rapprochée, dans lequel on retrouvait la belle Madeleine Stowe. Il y eut d'ailleurs une suite, Another Stakeout. Ma foi, pourquoi faire simple quand on peut faire simple, en 1993. Et on va écouter plutôt un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1991. Alors, c'est ce qu'on appelle un buddy movie, c'est-à-dire on met ensemble deux acteurs qui n'ont rien à voir et deux personnages qui n'ont rien à voir. Laurel et Hardy, par exemple, ou Nick Nolte et comment s'appelle-t-il, Eddie Murphy dans 48 heures, ce genre de choses. Et en l'espèce, il s'agissait de Michael J. Fox et de James Wood, le second jouant un vrai policier et le premier jouant un acteur qui joue un vrai policier. Donc, je vous laisse imaginer les péripéties parodiques un peu lourdes sur la charge hollywoodienne entre la star qui croit et le gars qui lui connaît vraiment la chose. Bon, le film s'appelle La Manière Forte, je ne sais pas si je l'ai dit, The Hard Way en anglais, ça veut dire La Manière Forte. Au Québec, ils ont appelé ça Jouer Dur, dis donc. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Un film qui n'était peut-être pas d'une très très grande finesse, mais ma foi, Michael J. Fox, James Wood, ça se laisse voir. Et puis ça nous permet d'écouter un compositeur qu'on écoute assez peu dans 24 notes secondes, et pourtant il a composé beaucoup de bandes originales pour John Badham. Je crois qu'il était notamment de la bande originale de Tonnerre de Feu, de War Games, peut-être même de Short Circuit, je ne sais pas trop, je vérifierai. Et en l'espèce, il s'agit d'Arthur B. Rubinstein. Alors, rien à voir avec le pianiste, c'est juste le nom du compositeur. La Manière Forte, mais dans 24 notes secondes.
Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love. Then ran around with every single guy in town.
Hey, hey, whoa, hey.
Keep away from a run around sewer. Scared.
Honte, honte sur l'animateur de 24 notes secondes. C'était bien un extrait de la bande originale du Prix de l'Exploit, mais vous l'avez sans doute reconnu. C'était Dion qui vous interprétait Run Around Sue et non pas la partition de ce malheureux Arthur B. Rubinstein. Donc, promis pour me rattraper, une spéciale Arthur B. Rubinstein dans un prochain épisode de 24 notes secondes. On va conclure cette émission consacrée à John Badham en disant qu'après The Hard Way, bah, il a tourné des films qui sont pas vraiment top. Donc en fait, vous savez ce qu'on va faire ? Surtout que ça va pas trop bien là. Donc on va revenir aux origines et on va écouter ça. Je suis bien désolé. Mon Dieu, que c'est beau. Allez, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, c'est plus pas bête.
Stay in the light. Stay in the light. Stay in the light.